Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Donc la première lecture en Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a affermie, Il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. La deuxième lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La lecture suivante dans le psaume 19, versets 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Et la dernière lecture dans Romains, chapitre 8, versets 18 à 21. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
Je crois en l'œuvre de l'Esprit Saint. Je ne place donc pas ma confiance dans ce que je vais vous dire ce matin, ce n'est qu'un moyen, mais je crois en l'Esprit Saint, qui peut utiliser ce moyen pour nous transformer, nous guider, nous fortifier, nous reprendre et nous rassurer. Ce que je crois a-t-il vraiment de l'importance? C'est le titre de la prédication du jour, comme vous le savez. Mon système de croyance, qui peut être autant de la laïcité que n'importe quelle religion ou système de pensée, ou le christianisme, est-ce vraiment important? Alors je commencerai tout de suite par quelques affirmations accompagnées de petits exemples. Ce que l'on croit détermine nos choix. Ce que l'on croit détermine nos choix. Si je crois que le chocolat est bon, je vais en manger. Si je ne crois pas qu'il est bon, je ne vais pas en manger. Okay? Donc ce que l'on croit détermine nos choix. Ce que l'on croit détermine notre avenir. Détermine notre avenir. Si je crois qu'il n'y aura plus de travail pour les sabotiers dans l'avenir, je ne vais pas faire ce métier. Ce que je crois a une influence dans notre avenir. Ce que nous croyons détermine notre assurance ou notre épouvante. Si je crois que des vampires existent et qu'il y en a dans ma maison, je vais vivre des moments d'angoisse, la peur permanente lorsque je suis dans ma maison. Ce que l'on croit détermine notre assurance ou notre épouvante. Ce que l'on croit détermine notre façon de penser. Si je crois que la Terre est ronde, je vais me représenter la galaxie d'une autre manière que si je crois à l'erreur de la Terre plate. Ce que l'on croit détermine aussi notre système de valeurs. Si je crois que je suis un animal évolué, je ne vais pas donner la même valeur à la vie humaine que si je crois que je suis une créature à l'image de Dieu. Ce que l'on croit détermine notre système de valeurs. Ce que l'on croit détermine ce que nous considérons comme bon ou mauvais. Si je crois que les médias, par exemple, disent la vérité sans aucun parti pris, eh bien je vais considérer comme bon ce qu'ils considèrent comme bon et mauvais ce qu'ils considèrent comme mauvais. Vous voyez ? Donc ce que je crois va déterminer ce que nous considérons comme bon et mauvais. Ce que l'on croit détermine aussi notre façon de nous comporter. Si je crois qu'un bouquet de fleurs fait plaisir à ma femme, eh bien je vais l'acheter. Mais si je crois pas que ça peut lui faire plaisir, je vais pas l'acheter. Voyez ? Notre croyance, ce que l'on croit détermine notre façon de nous comporter. Et nous pourrions continuer. Nous nous rendons compte que ce que nous croyons a une très grande influence, une très grande importance. Ce que l'on croit a de l'importance et des conséquences. Et j'espère que cela est déjà évident maintenant pour tous. Nous allons ce matin nous arrêter sur quatre domaines de croyance. Quatre domaines de croyance. Le premier, c'est le domaine de la souveraineté. Quelles sont les conséquences de croire au Dieu de la Bible ou pas? Deuxième domaine, c'est le domaine du Sauveur. Quelles sont les conséquences de croire au Sauveur Jésus-Christ ou pas? Troisième domaine, c'est le domaine de la référence. Quelle est la conséquence de croire à la Bible ou pas? Et quatrième domaine, peut-être l'aurez-vous deviné avec Romains 8, 18 à 20, c'est le domaine de l'avenir. Quelles sont les conséquences de croire en l'avenir que la Bible présente ou pas? Voilà donc les quatre domaines. Domaine de la souveraineté, ce que nous croyons, donc a une influence sur cette notion de la souveraineté, du Sauveur, de notre référence et de notre avenir. Commençons par le premier point. Quelles sont les conséquences de croire au Dieu de la Bible ou pas? Alors tout d'abord, j'aimerais déjà vous dire que ne pas croire au Dieu de la Bible ne signifie pas ne pas croire ou ne croire en rien. Ok? Ne pas croire au Dieu de la Bible, ça ne signifie pas ne pas croire ou croire en rien. Ne pas croire au Dieu de la Bible, c'est croire en autre chose. Voilà. Ne pas croire au Dieu de la Bible, c'est croire en autre chose, ce que la Bible appelle d'autres dieux ou idoles. Même un athée croit à quelque chose. Souvent, il croit à la matière, ou en l'homme, ou à la technologie, ou ce que vous voudrez. Il croit de toute façon à ce que la Bible nomme un dieu ou une idole, même s'il ne veut pas y donner ce nom-là. Nous sommes tous créés adorateurs, et c'est un fait observable. Le Dieu auquel nous croyons, que ce soit conscient ou non, a une influence sur notre vie. Nos croyances ont des conséquences sur notre vie. Alors, par exemple, croyez-vous en une multiplicité, oh là, ça c'est pas un terme facile, en une multiplicité de dieux, comme dans la religion populaire hindoue, par exemple. Cela aura pour conséquence que vous allez chercher à plaire à tous les dieux qui, selon votre croyance, ont des pouvoirs dans les domaines que vous souhaitez maîtriser, ou du moins où vous désirez être protégé ou avantagé. Si vous veniez à oublier le dieu qui s'occupe de la météo, alors même si vous avez fait un sacrifice à celui qui s'occupe des relations amoureuses, s'il fait de l'orage, vous aurez peur de sortir parce que la foudre pourrait vous tomber dessus. Étant donné que vous ne vous êtes pas occupé du dieu météo. Et vous ne sortez pas et vous manquez donc votre rendez-vous amoureux. C'est vraiment contraignant de ne pas en oublier un. Et c'est ça en fait. Si vous avez une multiplicité de dieux, il faut tous les contenter pour pouvoir le vivre. Pour ceux qui pensent que la multiplicité de dieux ne les concerne pas, peut-être votre cas, non mais moi de toute façon ça ne me concerne pas, j'ai quelques questions. Sur quoi comptez-vous pour être protégé? Sur quoi comptez-vous pour être reconnu? Sur quoi comptez-vous pour être en sécurité dans vos vieux jours? Sur quoi comptez-vous pour avoir une bonne réputation? Sur quoi vous appuyez-vous pour avoir une bonne santé? Ou pour la restauration des relations? Or, il y a bien des moyens que l'on peut utiliser pour tous ces domaines, ou des personnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, qui peuvent devenir des dieux sur lesquels nous comptons. Alors j'espère que vous commencez à comprendre qu'il y a pas mal de dieux potentiels, même sans être hindou. En fait, s'il y a beaucoup de dieux dans ce système, c'est parce qu'aucun n'est parfait. Il en faut donc d'autres pour combler les lacunes des uns et des autres. Un peu comme les assurances. Il n'y a pas une qui couvre tout. Donc vous devez en faire une pour chaque chose. C'est ça, cette multiplicité de Dieu. Celui qui croit à la multiplicité de Dieu Je ne parle pas juste de qui pense croire, mais effectivement dans sa vie, en fait, qui s'appuie sur plein de choses pour son avenir, etc. Va donc être poussé à plaire au plus grand nombre possible pour recevoir d'eux ce qu'il désire. Celui qui croit à une multiplicité de Dieu va donc être poussé à plaire au plus grand nombre possible pour recevoir d'eux ce qu'il désire. Ou peut-être croyez-vous en un Dieu monolithique, qui est impénétrable, qui n'a aucune multiplicité en lui, comme dans l'islam par exemple. Ceci aura pour conséquence que ce Dieu a besoin de l'homme pour avoir une relation. S'il n'y a personne, il ne peut pas connaître la relation. C'est un Dieu, en fait, très dépendant de l'homme, qui lui demande une soumission totale pour être en mesure de maîtriser la situation. Et la relation, être en mesure de transmettre, peut-être un certain amour, ou donner une grâce selon son plaisir, mais sans justice. Ou alors, vivre la justice sans grâce. La conséquence pour ceux qui croient en un Dieu monolithique est une soumission totale et aucune ressource relationnelle en ce Dieu, qui n'en a pas en lui-même. Ce Dieu monolithique est seul et ne peut pas aimer ce qui n'est pas aimable. Étant seul, il ne peut pas connaître l'amour par lui-même. Il ne peut pas connaître la relation personnelle par lui-même. En fait, il ne peut se suffire à lui-même. Il a besoin d'un vis-à-vis. Donc celui qui croit en un Dieu monolithique va devoir beaucoup donner pour recevoir quelque chose de ce Dieu qu'il considère comme puissant. Celui qui croit en un Dieu monolithique va donc avoir beaucoup à donner pour recevoir quelque chose de ce Dieu qu'il considère comme puissant. Ou encore, troisième possibilité, croyez-vous en un Dieu unique et en même temps multiple ? C'est un Dieu qui non seulement est infini dans tout ce qu'il est et peut faire, il est aussi incompréhensible, parce comment être un et multiple en même temps, tout en nous révélant ce qui est utile dans notre vie. C'est, vous l'avez peut-être reconnu, le Dieu de la Bible, le seul et unique vrai Dieu. C'est ainsi qu'il se présente. Lui-même se présente ainsi. On a lu le texte dans Ésaïe 45 tout à l'heure, on a le texte dans Ésaïe 44, verset 6. Hein, l'Éternel des armées se présente, je suis l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. La conséquence pour celui qui croit en ce Dieu unique est qu'il n'est pas tenu de chercher à plaire à une foule de dieux en ayant peur peut-être d'en oublier un. Celui qui croit au Dieu de la Bible n'a qu'un Dieu à adorer. La conséquence pour celui qui croit en ce Dieu multiple en lui-même est qu'il ne doit rien donner pour qu'il connaisse l'amour et tout ce qui concerne la relation. Car le Dieu trinitaire de la Bible se suffit à lui-même. Il n'y a rien à lui donner pour recevoir de lui. Il n'a pas besoin de l'homme pour connaître la relation et l'amour. La relation existe entre les trois entités ou personnes, on n'a pas vraiment un mot adéquat hein, pour le décrire, disons trois personnes, hein. Père, Fils et Saint-Esprit vivent une relation en parfaite harmonie, un amour parfait. Ce Dieu a donc en lui-même les capacités et les ressources de donner tout cela. Dieu n'a pas besoin de moi pour exister, ou même pour connaître la relation. Il n'est pas manipulable. Par contre, je peux bénéficier de sa communion parfaite, parce qu'il la partage. De plus, il a la capacité de devenir homme, tout en restant Dieu, puisqu'il est multiple, sans pour autant devenir plusieurs dieux. Et cette capacité lui a donné la possibilité de venir accomplir la justice en payant pour le péché. Hein, le Fils, Jésus-Christ, est devenu péché à la croix et a pris la juste colère de Dieu qui est réservée comme jugement à tous les pécheurs repentants. Il peut donc, ce Dieu-là peut donc accorder sa grâce sur la base de ce qu'il a payé, de ce qu'il a accompli. Ce n'est pas une grâce arbitraire. J'ai envie de donner la grâce ou j'ai pas envie de donner la grâce. Non, c'est une grâce sans justice, hein, où rien n'est payé. Non, c'est une grâce qu'il a lui-même payée. Croire en ce Dieu-là signifie qu'il ne faut pas payer lorsqu'il pardonne. Il l'a déjà fait. Croire en ce Dieu-là signifie qu'il ne faut pas payer. Lorsqu'il pardonne, il l'a déjà fait. Ce qu'il nous demande en retour, c'est de nous aimer comme il nous a aimés. Et Jean le dit bien, hein, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui, afin que nous puissions aimer en retour, ce Dieu rédempteur, le Créateur. Et si on aime le Créateur, on aime aussi ses créatures, c'est-à-dire tous nos prochains. Vous ne trouverez aucun Dieu avec cette parfaite sagesse, cette parfaite sainteté, cette parfaite bonté, cette parfaite justice, cette parfaite vérité, ce parfait amour, cette parfaite bienveillance. Rien à voir avec les dieux arbitraires et égoïstes des anciens mythes. Rien à voir avec un dieu d'amour sans justice, un peu comme un grand-père naïf et indulgent à l'égard du mal. Non, rien à voir. Rien à voir avec un dieu despote qui ne se donne pas lui-même afin de prouver l'amour envers ceux qu'il a choisis. Non, ce que je crois de Dieu change le sens et donne une valeur particulière à ma vie. Le Dieu de la Bible ne m'a pas créé par nécessité. Il m'a créé parce qu'il l'a voulu et choisi. Et il m'a fait pour sa gloire. Si je crois au Dieu de la Bible, je ne crois par contre à aucun autre Dieu. Parce qu'il a dit lui-même, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est un Dieu exclusif. Pourquoi ? Parce qu'il est parfait. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Celui qui croit en un Dieu unique et multiple en lui-même, qui est le Dieu de la Bible, va recevoir pour donner. Vous comprenez ? Le Dieu monolithique, ce n'était pas possible, il ne pouvait pas donner. Celui qui croit en un Dieu unique et multiple en lui-même, qui est le Dieu de la Bible, va recevoir pour donner en s'appuyant sur un Dieu parfait chez qui rien ne manque, contrairement à tous ces dieux multiples. Je n'ai pas à accomplir des exploits pour être accepté par lui. Je peux saisir son amour et aimer en retour de toutes mes forces, lui en premier et par ricochet toutes les autres créatures. Cela nous amène à notre deuxième réflexion sur la question « Ce que je crois a-t-il de l'importance ?» Il s'agit maintenant du domaine de se faire bien voir, de se faire accepter, d'effacer ses erreurs, d'avoir une bonne conscience. Nous pouvons dire quelque part que tout le monde cherche un sauveur, même s'il n'est pas ainsi nommé. Tout le monde veut être juste, même s'il n'est pas clairement conscient du jugement à venir. Vous n'avez qu'à voir toutes les justifications que les gens peuvent sortir autour de vous, ou même nous-mêmes d'ailleurs. Nous arrivons donc à ce deuxième point. Quelles sont les conséquences de croire au Sauveur Jésus-Christ ou pas ? Alors c'est vrai qu'un grand nombre de personnes croient que le Sauveur, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas souvent conscient, mais c'est très frappant. Il s'agit de faire le plus de bien possible pour compenser le mal. Vous avez jamais observé ça ? Il y en a qui roulent en voiture parmi vous. Lorsque le flash vous indique que vous avez mal agi de votre conduite en ayant une vitesse trop élevée, vous cherchez à compenser en roulant les prochains kilomètres à la vitesse indiquée. Même si c'est une bonne chose, cela ne va pas enlever votre amende d'excès de vitesse. Si vous croyez être votre propre sauveur, vos actions vont être déterminées par votre sensibilité au mal que vous faites. Plus votre sensibilité diminue, moins vous ferez de bien pour le compenser. Et plus votre sensibilité augmente, et plus vous chercherez à faire de bien pour le compenser. Mais comme dans le cas de l'amende pour excès de vitesse, que vous soyez sensible ou pas, que vous rouliez ou non selon les limitations de vitesse après le flash, vous n'allez pas pouvoir annuler l'amende pour excès de vitesse. En fait, il faudrait que quelqu'un paye l'amende pour qu'elle ne vous soit pas facturée. Et la Bible dit que personne ne peut payer l'amende du péché. Car pour payer cette amende, il faut la vie d'une personne qui n'a jamais péché. Mais la Bible dit aussi que Dieu est devenu homme. Un homme né d'une vierge qui s'appelle Jésus et qui a vécu une vie sans péché. Ainsi, il n'avait rien à payer pour lui-même. cet homme sans péché a été condamné à la place de ceux qui ont péché et a pu payer le prix. Il a payé totalement pour tous les croyants. Il ne reste pas un centime. Jésus est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas d'autre moyen pour trouver sa faveur auprès de Dieu. Tous les autres sauveurs sont des leurres. C'est ce que c'est un leurre. Un leurre, c'est une tromperie, une illusion, un attrape-nigo, si vous voulez. Tous les autres sauveurs sont des leurres. Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous voulez y revenir, c'est dans Jean 14, au verset 6. Donc une conséquence de croire que Jésus est le seul sauveur qui sauve parfaitement, c'est de ne pas en chercher un autre. Vous voyez ? Si vous ne croyez pas que Jésus est le sauveur, ben vous allez en chercher un autre, ou bien vous allez chercher à le vivre vous-même. Mais si vous croyez que Jésus est le seul sauveur qui sauve parfaitement, vous n'allez pas en chercher un autre, et vous n'allez pas chercher à vous sauver vous-même. Une conséquence de croire que Jésus est le seul sauveur qui sauve parfaitement, c'est de ne pas chercher un autre, ni à chercher à se sauver soi-même. Une conséquence de croire que Jésus sauve parfaitement, c'est que je peux mettre mon énergie, non pas pour subir la punition de ce que j'ai mal fait, mais pour réparer ce qui est possible et chercher à vivre ce qui est bien selon mon Sauveur qui a pris la punition à ma place. Si on croit que Jésus a parfaitement sauvé, fini l'énergie pour essayer de payer une punition. On arrête ça. On va plutôt chercher, c'est vrai, à réparer ce qui est possible, ça fait partie de la repentance, et à vivre ce qui est bien selon lui. Le gain d'énergie est juste énorme, en fait. Et je ne chercherai plus à gagner la faveur de Dieu, mais à me réjouir de sa faveur. Quand je dois faire quelque chose pour avoir sa faveur. Non, j'ai sa faveur, donc je vais vivre selon lui. Je cherche son plaisir et je trouve mon plaisir en lui. Si tu crois à un autre sauveur, eh bien tu vas chercher la faveur de cet autre sauveur en lui donnant tout ce que tu as de meilleur. C'est ça en fait. Mais il ne pourra jamais te sauver du juste jugement de Dieu auquel tu devras faire face, que tu y crois ou non. Ce n'est pas le fait qu'on y croit que quelque chose arrive ou pas. Si c'est annoncé, ça va se passer, que vous y croyez ou non. Et pour qu'un jugement existe, il faut qu'une loi définisse ce qui est juste ou non. Il faut une référence. Et cela nous amène à notre troisième point. Quelles sont les conséquences de croire à la Bible ou pas, à la référence. Celui qui croit que, par exemple, le Coran est la révélation de Dieu, est tenu de s'y conformer, tout en sachant que dans le Coran, il y a des abrogations. En simple, ça signifie que des parties du début ont été annulées par des parties de la fin qui sont prétendues meilleures. Celui qui croit à une référence, mais qui ne la connaît pas et ne l'applique pas, montre simplement que ce n'est pas sa référence. Celui qui dit croire à une référence, mais qui ne la connaît pas et ne l'applique pas, montre simplement que ce n'est pas sa référence. Celui qui croit que la science est la référence ultime de la connaissance est tenu de s'y conformer, tout en sachant que les vérités du siècle passé ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et ne seront plus pas les mêmes dans le siècle prochain. Vous savez, pour qu'une référence soit fiable, elle doit être sans erreur et infaillible. Pour qu'une référence soit fiable, elle doit être sans erreur et infaillible. Et ce critère de vérité absolue n'est détenu que par un seul livre, qui assure lui-même être la vérité et qui n'a aucune abrogation ni reconnaissance d'erreur. C'est vrai que dans la Bible, il y a des accomplissements, hein, comme par exemple les sacrifices, qui représentaient le sacrifice de Jésus-Christ, qui ne sont plus pratiqués. Mais ce n'est pas parce que c'est abrogé ou qu'il y avait une erreur, mais c'est parce que c'est accompli. La Bible seule est divine et humaine, un mystère aussi impénétrable que la Trinité, mais dont nous avons assez de connaissances pour comprendre que c'est Dieu qui a totalement inspiré ce livre composé de 66 chapitres, qu'on appelle les livres bibliques. En fait, on n'a qu'un livre. Quand on parle du livre de Josué, livre, etc. En fait, c'est un chapitre dans le livre. Et en même temps, ce sont des hommes de différentes époques, avec différents arrière-plans, qui ont écrit ces 66 chapitres qui forment un tout cohérent. La Bible a un auteur qui est Dieu, qui ne se trompe pas. Il a de multiples écrivains, afin que personne ne puisse dire qu'un homme a manipulé tout le livre et qu'il l'a tourné à son avantage ou qu'il a apporté ses propres idées. Dans la Bible, ce n'est pas possible. Pas possible. Écrit sur 1500 ans avec plus de 40, enfin une quarantaine d'auteurs différents, c'est juste pas possible. Croire que la Bible est la révélation de Dieu va donc nous pousser, bon, il y a des conséquences, comme je dis, la croyance a des conséquences, hein. Croire que la Bible est la révélation de Dieu va donc nous pousser à la lire, à la comprendre, à la mettre en pratique et à considérer son avis comme étant la vérité. Ça, c'est les conséquences de croire que la Bible est la révélation de Dieu. Hein. Croire que la Bible est la révélation de Dieu va donc nous pousser à la lire, à la comprendre, à la mettre en pratique et à considérer son avis comme étant la vérité. Celui qui ne croit pas que la Bible est la vérité aura d'autres sources de vérité. Et une des sources les plus connues, c'est laquelle c'est ? C'est ce que font les autres. Ben ouais. Quel parent n'a jamais entendu « Mes papas, mes copains font tous ceci. » Donc c'est bien. Hein ? Ou « Mes copines ont tout cela. » Ou « Tous mes amis ont le droit de... » Et cela vient aussi dans les églises. Hein. Quel ancien n'a jamais entendu « Mais dans toutes les églises, ils font ceci, ou ils disent cela, ou ils autorisent ceci. » Celui qui croit que la Bible est la vérité et la norme se posera une autre question. Qu'est-ce que la Bible en dit ? Voyez, ce que nous croyons va déterminer notre comportement. Si ce que font les autres est votre norme, c'est la religion du moment, la déification des autres. C'est ça, en fait. Hein? Si ce que font les autres est votre norme, c'est la religion du moment, la déification des autres. Et il suffit qu'il y ait un assez grand nombre de personnes qui fassent quelque chose pour que cela devienne acceptable ou plus acceptable. Il suffit simplement qu'un assez grand nombre de personnes fassent quelque chose et cela devient acceptable ou plus acceptable. Et cela change tout le temps. Ce qui est acceptable maintenant ne sera peut-être plus dans quelques années. Et ce qui n'est pas acceptable maintenant, ben, le sera peut-être dans quelques années, comme ça l'était dans le passé, enfin, etc. Et de plus, cela ne dépend pas seulement de l'époque, mais cela dépend encore du lieu géographique où vous vous trouvez sur la Terre. Parce que ce qui est acceptable ici ne l'est pas forcément ailleurs, et vice-versa. Si vous croyez que la vérité existe, elle ne change pas. Sinon, ce n'est pas la vérité. Comprenez ? Si vous croyez que la vérité existe, elle ne change pas. Si ça change, ce n'est pas la vérité. Dieu, dès le commencement, a déclaré des choses bonnes et d'autres choses mauvaises. Et il les a progressivement révélées dans l'histoire pour arriver à une révélation complète que nous avons aujourd'hui. Ce que Dieu déclare bon restera toujours bon. Et ce que Dieu déclare mauvais restera toujours mauvais. Mauvais. Sinon, ce n'est pas la vérité. Ce sont les normes constantes et véritables selon lesquelles nous serons tous jugés. Ce n'est pas aléatoire. Ces normes ne sont pas dépendantes de l'époque, du lieu, de l'opinion publique, de l'idée d'un homme puissant ou de ce que nous croyons. Ce que je crois ne change pas la vérité. Ce que je crois ne va pas changer la vérité. Mais ça va changer ma façon de la percevoir et de la vivre ou de la rejeter. Ça, c'est vrai. Donc, ce que je crois ne va pas changer la vérité, mais ma façon de la percevoir et de la vivre ou de la rejeter. Et c'est très pratique. Hein. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph qui descend en Égypte, hein, qui va chez Potiphar. Et Joseph croyait que le mariage était une union exclusive. Et c'est ce qui lui a donné la force de résister à la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Ce que je crois a des conséquences pratiques dans mon comportement. Celui qui croit à la Bible comme norme que Dieu nous a donnée ne va pas chercher à remettre en question ce que la Bible dit, mais plutôt ce que la société dit. Celui qui croit à l'avis de la société comme norme ne va pas chercher à remettre en question l'avis de la société, même s'il change régulièrement. Mais il va remettre en question ce que la Bible dit, alors qu'elle ne change pas. Vous voyez, je l'espère toujours plus que ce que nous croyons a une très grande importance. Car cela va nous influencer dans tout ce que nous vivons, pensons, disons et transmettons. Mais non seulement pour ce qui s'est passé, non seulement de ce que nous croyons pour le passé ou pour le présent, mais également pour notre avenir. Et c'est notre dernier point. Quelles sont les conséquences de croire en l'avenir selon la Bible ou pas? Celui qui ne croit pas au jugement et à une vie après la mort physique, que va-t-il faire? Il va tout miser sur la vie présente. C'est une conséquence. Voilà pourquoi il y a souvent une si grande course au plaisir, au bien-être, à la facilité, à la gloire actuellement. Si l'on croit qu'il n'y a rien après notre vie, autant en profiter pleinement avant. Si on croit qu'il n'y a rien après, autant en profiter pleinement avant. Mais s'il n'y a plus rien après, dans quel but en profiter maintenant? Vous savez, le revers de la médaille de croire qu'il n'y a rien, c'est que la vie n'a plus le même sens. Parce qu'au fond de lui, l'homme a la pensée de l'éternité. Et il cherche alors des moyens pour prolonger la vie. On le voit ça, par la technologie médicale qui est déjà très ancrée dans notre société. Mais qui n'a pas du tout enlevé la mort. Cela peut-être un peu repoussé. Ou alors en imaginant pouvoir faire revivre des personnes ou même des parties de personnes en les congelant. En fait, c'est la recherche de la vie après la mort. Ça se fait donc, actuellement. Tandis que celui qui croit au jugement et à une vie après la mort va vivre sa vie de manière responsable avant sa mort, tout en sachant que tout n'est pas terminé. Il sait que cette vie ici en prépare une autre. Il n'a plus besoin de devoir absolument avoir du plaisir, qui d'ailleurs entre nous est éphémère. Personne ne vit des plaisirs continuels. Il n'a pas besoin de chercher la facilité, qui d'ailleurs n'existe pas vraiment. Connaissez-vous quelqu'un qui dit que la vie est facile de manière continuelle et que c'est effectivement le cas? Celui qui croit à la vie éternelle dans la gloire de Dieu n'a donc plus aucune pression à chercher la gloire dans sa vie avant sa mort. Vous voyez? Si je sais que j'ai la gloire qui m'attend, je n'ai pas besoin ici d'écraser tous ceux qui sont autour de moi pour avoir la gloire. Je sais que je l'aurai. Vous voyez la différence? Il peut donc se donner, servir et utiliser ses dons au maximum sans avoir besoin de chercher la gloire qu'il recevra de toute façon et pour beaucoup plus longtemps. Ce que l'on croit de l'avenir, en fait, a un énorme impact dans notre vie. Celui qui, étant chrétien, croit en l'avenir décrit dans la Bible, a une assurance. Il n'a pas peur de la mort. Bon, le passage de la mort, c'est vrai, toujours difficile. Mais il n'a pas peur de la mort. Il sait où il va. Il a une espérance solide. Il peut se donner en sachant qu'il recevra encore bien plus que ce qu'il pourrait même donner. Il peut supporter les souffrances en sachant qu'il sera un jour délivré et vivra dans la gloire. Celui qui n'a pas cette perspective, comment vivre les souffrances? Nous avons une perspective en Dieu. Elles s'arrêteront une fois. Et en plus, nous serons dans un lieu où il n'y aura plus de souffrances. Ce texte de Romains 8, 18 que nous avons lu tout à l'heure est tellement fort. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances des temps présents et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Or, comme mon temps de parole est limité, je n'ai pas cherché à développer toutes les conséquences de ne pas croire au Dieu de la Bible, dans le Sauveur Jésus-Christ, dans la Bible révélation de Dieu et dans l'avenir dépeint par la Bible. Mais je peux vous dire une chose, c'est que tout ce qui s'écarte de ces quatre éléments qu'on a vus ne peut que mener au désastre éternel. Celui qui croit au Dieu de la Bible est face à un Dieu parfaitement juste et parfaitement amour. Et il l'a prouvé en envoyant un sauveur. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu révélé dans la Bible. Celui qui croit au sauveur décrit dans la Bible est face à un salut parfait, totalement accompli dans lequel il peut entrer et par lequel il peut progresser par amour. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Celui qui croit à la révélation de Dieu, à la Bible, est face à une vérité qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. Il peut construire sur un fondement inébranlable. Il n'y en a pas d'autre. Celui qui croit à l'avenir décrit dans la Bible sait qu'il y a deux possibilités. Et c'est Jean 3, 36 qui nous le dit de manière très résumée et très claire. Croire au Fils et avoir la vie éternelle. Ne pas croire au Fils et que la colère de Dieu demeure éternellement sur lui. C'est les deux seules possibilités et il n'y en a pas d'autres. Les religions disent « Fais toutes sortes de choses et peut-être que Dieu aura pitié de toi ». La Bible dit « Dieu a pitié de toi et il t'appelle à saisir par la foi ce qu'il a fait pour toi ». Veux-tu l'accepter ? Les religions font de l'obéissance la condition pour recevoir la grâce. La Bible fait de la grâce la condition de l'obéissance. Préfères-tu essayer d'obéir, essayer d'être parfait, ou préfères-tu recevoir la grâce de Dieu pour ensuite, avec cette grâce, progresser dans la vie ? Si tu cherches la grâce, si tu préfères la grâce, eh bien ne cherche plus à te justifier devant Dieu. Ne cherche pas à faire croire que tu es quelqu'un de bon, mais reconnais la laideur de tes fautes. Reconnais que tu en es responsable. Personne d'autre ne les a fait à ta place. Reconnais que tu ne peux pas les payer. Et prie Dieu en lui demandant pardon. Et crois que Jésus a tout payé. Et tu seras délivré. Et tu seras délivré. Ce que je crois, a-t-il de l'importance ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, quel bienfait de pouvoir tourner nos regards vers toi, vers ta parole, qui est remplie d'instructions. Et merci parce qu'elle est si claire. Nous avons lu ces deux textes dans Isaïe, il y a tant d'autres qui montrent qu'il y a un seul Dieu. Un seul vrai Dieu. Et Seigneur, j'aimerais te prier de nous donner à chacun ici de le croire réellement. Nous sommes conscients que de croire que tu existes n'est pas suffisant d'être sauvé. Mais nous sommes aussi conscients que de ne pas croire que tu existes est suffisant pour être perdu. Et nous te remercions, Père, parce que tu ne nous laisses pas dans cette situation d'entre deux. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, ce Sauveur parfait. Et j'aimerais te prier que chacun ici, nous ayons ce désir de nous approcher de toi et de saisir cette grâce, et non pas de chercher à la mériter, parce que nous n'y arriverions pas. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta parole qui est notre guide, qui ne change pas, qui est vraiment la vérité. Oh, donne-nous, Seigneur, de l'aimer. Donne-nous ne pas chercher à la manipuler. Mais donne-nous, Seigneur, que cette parole, plutôt, nous transforme et nous guide. Père, nous te remercions pour ces promesses d'avenir, pour ces assurances que tu nous donnes, qui nous permettent aussi de traverser les épreuves, qui sont les mêmes que ceux qui sont autour de nous, bien souvent. Mais que nous pouvons traverser avec confiance et avec force et avec foi, parce que nous savons que ce n'est pas la fin. Parce que nous savons que tu nous réserves un avenir glorieux, un avenir heureux, un avenir libre de tout péché et de toute douleur. Ô Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun de nous ici présents. J'aimerais te prier pour tous ceux qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas encore, qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas en la Bible, qui ne croient pas en l'avenir que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous te prions et nous implorons que ton esprit touche les cœurs. Parce que nous savons que nous pouvons expliquer ça en long, en large, sous toutes les formes, avec tous les arguments que nous voulons. Si l'Esprit Saint n'agit pas, c'est inutile. Mais si l'Esprit Saint agit, c'est la gloire, c'est la joie, c'est la transformation. Et c'est ce que nous te demandons, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, et n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.